Paul Bourget, Sauvetage. Chapitre 1. Bassigny était entré au cercle ce soir-là pour écrire, dans une des petites salles du premier étage, deux lettres d'affaires, moins solitairement que dans sa chambre d'hôtel. Quand il les eut libérées et mises à la boîte, il s'abandonna dans un fauteuil au coin de la cheminée où brûlait le premier feu de l'année. On était à la fin d'octobre et c'était une soudaine et brusque apparition de l'hiver. Elle réjouissait presque tous les habitués du club dont Bassigny était resté membre, quoiqu'il n'habitât plus Paris que par hasard. J'aurais suffisamment désigné l'endroit aux curieux des choses parisiennes quand j'aurais dit que de la porte de ce cercle à la Madeleine, il n'y a pas 4 minutes de marche. Les familiers du lieu, appartenant pour la plupart à la classe des gens de sport, il était naturel qu'ils vissent, dans le subit refroidissement de l'atmosphère, un présage de favorable augure pour les chasses à courre qui s'inauguraient un peu partout, à Fontainebleau, à Chantilly, dans la forêt d'Alatte. Il y avait beau temps que Bassigny, jadis un des plus brillants cavaliers du Second Empire, ne se souciait plus ni des plaisirs cinégétiques, ni d'une élégance quelle qu'elle fût. Quoique, à 55 ans, il eût gardé une fière tournure d'ancien beau, les profonds stigmates de chagrin empreints sur son visage, ses cheveux blancs, sa tenue de grand deuil, révélaient qu'il venait de traverser, ou qu'il traversait, quelques-unes de ces épreuves qui sont, pour la vieillesse commençante, d'irréparables désastres. C'est l'époque où l'on comprend, avec une affreuse évidence, que rien ne se refait plus dans la vie, passé un certain âge. Toute perte est amèrement sentie alors, même la plus légère, celle d'une camaraderie, d'une habitude. Les chagrins dont souffrait Bassigny étaient plus tragiques. Coup sur coup, dans l'espace de 30 mois, la même terrible maladie, la phtisie pulmonaire, avait emporté sa femme et ses 2 enfants, une fille de 20 ans et un fils de 18. C'était la raison pour laquelle, venu à Paris dans le but de régler quelques intérêts, il remettait de jour en jour à reprendre le chemin de la Tourette, le château d'Aveyron, où il avait espéré vieillir parmi ses paysans, entouré de l'affection des siens, ayant marié près de lui cette fille et ce fils, beau rêve de fin patriarcale que lui avait suggéré le sang de ses ancêtres terriens. Quoiqu'issus de simples extractions bourgeoises, les Bassigny ont la Tourette depuis tantôt 250 ans. Le souffle irréparable de la destinée avait passé sur la maison et sur le rêve, et le Fernand Bassigny, plus que quinquagénaire, se retrouvait seul, assis dans cet angle de club, celui-là même où il s'asseyait 30 ans auparavant, lorsqu'il habitait Paris, et qu'il était, lui aussi, un des princes de la mode, pareil en insouciance et en frivolité, au seigneur qui fréquentait ce cercle aristocratique. Il continuait d'être leur collègue, de loin, depuis son mariage et sans les connaître, dans sa retraite de province, par une contradiction commune à presque tous ceux qui ont, comme lui, quitté définitivement le boulevard après y avoir beaucoup vécu. Un Parisien d'une certaine qualité de parisianisme a beau ranger son existence dans les mœurs de tout point contraires à celles de sa jeunesse, se garde toujours quelques coins dans la grande ville ou reprendre contact avec elle. Ces coins avaient été pour Bassigny, lors de sa retraite définitive, 20 maisons amies qui n'étaient plus qu'une demi-douzaine à présent, et 2 cercles dont l'un s'était dissous en se fondant avec un autre. Quoique beaucoup de choses déplussent à ce survivant d'une génération disparue dans celui de ces 2 clubs qui duraient toujours, et où il se trouvait par ce soir d'automne, froid comme un soir d'hiver, trop de souvenirs flottaient entre les murs de ces salons pour qu'il ne se tînt pas à cet endroit par quelques-unes de ses fibres secrètes. Et, magique puissant du passé, fût-ce un passé répudié pour toujours, ce rendez-vous de viveurs et de sportsmen était l'asile où cet homme de famille, frappé d'une manière irréparable, sentait avec moins d'amertume la désolation de son foyer dévasté et de son avenir désormais sans but. Il était donc là, caché à l'abri du paravent qui protège cet angle de la haute cheminée contre les vents coulis de la porte et abîmé dans un vaste fauteuil de cuir. Il devait y rester d'autant plus inaperçu que ses rêveries de ce soir l'immobilisaient complètement dans cette contemplation du feu où, tout enfant, nous regardons les étincelles pétiller, gaies et légères comme nos espérances, et, sur le tard de la vie, les cendres s'amasser, éteintes, grises, brûlantes encore, comme nos regrets. Son absorption était telle qu'il ne détourna même pas la tête à l'entrée bruyante de deux jeunes gens, dont l'aîné comptait 27 ans peut-être, l'autre 25, et qui venaient de dîner gaiement, trop gaiement, au champagne brut et au porto, car ils avaient le sang à fleur des joues, et ils ne pensèrent pas plus à s'approcher du foyer que si la nuit n'eût pas été glaciale. L'un d'eux même ne put s'empêcher de s'écrier « Dans une heure, il fera une jolie température ici. Ils ont déjà le calorifère et le feu. Buvons toujours un léger BNS, répondit l'autre, et nous irons reprendre l'air si la partie n'est pas commencée. As-tu un cigare, Paul ?»« À ta disposition, mon vieux Maxime, et même un Morales qui n'est pas trop infect, » reprit le premier qui tendit son étui à son camarade. « Merci, Don Pablo, » reprit celui-ci. Il fit craquer le cigare à son oreille pour s'assurer qu'il était à point et il tira de sa poche le plus joli trousseau de jeune homme à la mode où pendillait une demi-douzaine de breloques plus ou moins inutiles, depuis la pièce d'or avec l'effigie de Louis XVIII à la queue, destinée à servir de fétiche, jusqu'à un minuscule couteau d'or à couper les cigares, incrusté d'éclats de rubis. Avant de s'en servir lui-même, il offrit cet outil de fumeur à l'autre, qui regarda ce véritable bijou avec une curiosité malicieuse. Puis, gaiement, « Voilà ce que c'est que de travailler dans les femmes du monde. C'est un souvenir de Madame de M. Jure de dire la vérité, toute la vérité, Maxime. » « Je dirai la vérité, » fit le possesseur du précieux couteau, et, montrant à son ami une inscription sur le revers, « C'est de Madame de M., en effet. Il y a même une date. Elle est sentimentale, cette pauvre Nicole. »« Elle s'est donc décidée à venir rue du Mont-Tabor, » reprit l'autre, « ou bien, si vous en êtes toujours aux bagatelles de la porte, tu ne m'en as pas parlé depuis Deauville. Il est vrai qu'on s'est si peu vu. » « Notre flirt continue, » répondit Maxime. « La date est là pour le prouver sur ce petit couteau. C'est une Philippine de chez les Cerneux où nous villégiaturâmes de compagnie. Mais enfin, ça n'y est pas. Alors, ça n'y sera jamais. Cette histoire a au moins 3 mois de bouteille. C'est manqué. Ça y sera, mon cher Paul, » dit l'autre avec une décision un peu narquoise, tout en allumant son cigare et respirant avec volupté l'odorante vapeur dont il s'enveloppait, et pas plus tard que cette semaine. Bon chien, chasse de race. Nicole ne serait pas du sang de la bonne maman Janson si elle ne marchait pas, et elle va marcher. Le premier pas coûte toujours. Et tu crois que tu seras le premier pas ? Dame, étant donné qu'un mari ne compte point. « Alors, tu n'en veux pas trop au mari, » reprit Paul avec une amicale ironie. « C'est délicat. Mon yacht a toujours été sympathique, d'ailleurs. »« C'est un principe, » répondit Maxime en riant. « Une histoire avec une bourgeoise dont le bourgeois me dégoûte, jamais. » Il y eut un silence. Les deux compagnons, qui échangeaient ces propos d'une brutalité à la fois si plate et si sereine, avaient l'un et l'autre cette physionomie encore fraîche, à peine achevée, derrière laquelle une femme romanesque imagine nécessairement une âme candide, étrangère, même en pensée, aux villes nées du monde. L'un et l'autre étaient mis avec cette perfection de tenue qui révèle les surveillances d'une éducation maternelle longtemps prolongée, et aussi l'opulence familiale, la précoce habitude du luxe et de tous ses raffinements. Ils ne se croyaient certes pas mauvais, ayant simplement poussé, comme deux exquises fleurs de corruption, dans ce terreau du grand vice parisien, dont la couche s'est terriblement épaissie et pourrie depuis quelques années. Ils venaient tous deux de déshonorer gaiement, en parole, après boire, entre deux bouffées de leurs cigares de choix, deux femmes, une mère et une fille, et ils se fussent indignés le plus sincèrement du monde si quelqu'un était venu leur raconter la tricherie d'un camarade au baccarat ou sa défaillance nerveuse dans un duel. La moralité du milieu auquel ils appartenaient a de ses rigueurs. Ils en donnèrent une preuve immédiate en reprenant leur causerie et parlant avec la plus intransigeante sévérité d'une course où le propriétaire d'une écurie connue n'avait pas été correct. Cependant, ils avaient fini de boire l'alcoolique mélange qu'ils consommaient chaque soir, consciencieusement, par anglomanie, et leurs cigares s'achevaient. L'un d'eux, ayant regardé sa montre et prononcé les mots sacramentels « Et la partie ?», ils se levèrent et alors seulement ils s'aperçurent que leur entretien avait bien pu être surpris par un auditeur qu'ils ne soupçonnaient pas. « Tiens, » dit Paul à mi-voix, « il y avait du monde à côté et nous qui avons fui comme des tonneaux percés. »« Bah !» fit Maxime de même, « ce n'est toujours ni le mari ni le père de Madame de M. » Et puis, il n'y a pas qu'une Madame de M à Paris. Je crois bien que nous l'avons nommée tout au long, reprit l'autre. C'est égal, il est plus prudent de savoir quel est ce vieux Lascar qui nous a laissé bavarder sans faire ouf. Je ne crois pas l'avoir jamais vu ici. Il dormait, dit philosophiquement son camarade. D'ailleurs, c'est aisé à vérifier. Et, avisant un valet de pied, il lui demanda le nom de ce mystérieux témoin de leur commune indiscrétion. « Bassini, répéta-t-il à son camarade, ça doit vivre en province toute l'année. Ça ne connaît personne à Paris. C'est du cercle par quelque cousinage. Pas de crainte à avoir. D'ailleurs, une petite promenade au bois avec un mari, c'est plutôt gai. » Il fit le signe de donner un coup d'épée et de prendre un contre, tout en entraînant son ami vers les tables de jeu, tandis que Bassini interpellait de son côté le même valet de pied. « Qui sont ces deux messieurs qui sortent? Je les connais, mais je ne me rappelle pas leur nom. Monsieur Paul Richardot et monsieur le vicomte de Portille. Voulez-vous me donner l'annuaire du cercle ?» demanda encore Bassini. Quand il eut le livret, il y chercha l'adresse de Maxime de Portille. Il vit que le vicomte habitait avec son père et sa mère, rue François Ier. Alors, se dit-il en remettant la brochure sur la table, rue du Mont-Tabor, c'est son appartement de rendez-vous. Il resta quelques minutes à regarder le feu avec une intensité de réflexion singulière, puis il se leva à son tour en disant entre ses dents, d'une voix étouffée et douloureuse comme un soupir, « Il ne me manquait plus que ce chagrin-là. Ah, mauvaise, mauvaise jeunesse !»